aux amoureux. Chaque semaine, je vous lis un chapitre de Fragments du discours amoureux de Roland Barthes pour méditer sur ce qui nous bouleverse tous, l'amour. Roland Barthes a écrit en 77 son ouvrage sous une forme de dictionnaire, dans lequel il décortique chacun des aspects du sentiment amoureux. Il s'appuie sur des romans, et notamment « Les souffrances du jeune Werther » de Goethe, mais aussi sur des philosophes, les philosophes grecs, Diderot, Nietzsche et d'autres encore, et enfin sur son propre vécu. Cette semaine, dédicace, dépendance, dépense. Dédicace. Épisode de langage qui accompagne tout cadeau amoureux, réel ou projeté, et plus généralement tout geste, effectif ou intérieur, par lequel le sujet dédie quelque chose à l'être aimé. Le cadeau amoureux se cherche, se choisit et s'achète dans la plus grande excitation. Excitation telle qu'elle semble être de l'ordre de la jouissance. Je suppute activement si cet objet fera plaisir, s'il ne décevra pas. Ou si, au contraire, paraissant trop important, il ne dénoncera pas lui-même le délire, ou le leurre dans lequel je suis prise. Le cadeau amoureux est solennel. Entraîné par la métonymie dévorante qui règle la vie imaginaire, je me transporte tout entière en lui. Par cet objet, je te donne mon tout. Je te touche avec mon phallus. C'est pour cela que je suis folle d'excitation. Que je cours les boutiques, que je m'entête à trouver le bon fétiche. Le fétiche brillant, réussi, qui s'adaptera parfaitement à ton désir. Le cadeau est attouchement, sensualité. Tu vas toucher ce que j'ai touché. Une troisième peau nous unit. Je donne à X un foulard et il le porte. X me donne le fait de le porter. Et c'est d'ailleurs ainsi que naïvement il le conçoit et le dit. A contrario, toute morale de la pureté demande qu'on détache le cadeau de la main qui le donne ou le reçoit. Dans l'ordination bouddhique, les objets personnels, les trois vêtements, sont offerts au bonze sur un brancard. Le bonze les accepte en les touchant d'un bâton, non de la main. Ainsi, à l'avenir, tout ce qui lui sera donné et dont il vivra sera disposé sur une table, par terre ou sur un éventail. J'ai cette peur. Que l'objet donné ne fonctionne pas bien, à cause d'une défectuosité malicieuse. Si c'est un coffret, combien difficilement trouvé, par exemple, la serrure ne marche pas. La boutique étant tenue par des femmes du monde, et encore s'appelle-t-elle cette boutique « Because I love » Est-ce donc parce que j'aime que ça ne marche pas? La jouissance de cadeau alors s'éteint, et le sujet sait que ce qu'il donne, il ne l'a pas. On ne donne pas qu'un objet. X étant en analyse, Y veut aussi se faire analyser. L'analyse comme don d'amour? Le cadeau n'est pas forcément une ordure. Mais il a tout de même vocation au déchet. Le cadeau que je reçois, je ne sais qu'en faire. Il ne s'ajuste pas à mon espace. Il encombre. Il est de trop. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton don? Ton don devient le nom farce du cadeau amoureux. C'est un argument typique de la scène que de représenter à l'autre ce qu'on lui donne. Du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'ingéniosité, d'autres relations. Car c'est appeler la réplique qui fait marcher toute scène. Et moi, et moi ! Qu'est-ce que je ne te donne pas? Le don révèle alors l'épreuve de force dont il est l'instrument. Je te donnerai plus que tu me donnes, et ainsi je te dominerai. Dans les grands potlatches amérindiens, on en venait ainsi à brûler des villages, à égorger des esclaves. déclarer ce que je donne, c'est suivre le modèle familial. Vois les sacrifices que nous faisons pour toi. Ou encore, nous t'avons donné la vie. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie ? Le don, c'est le placer dans une économie d'échange, de sacrifice, de surenchère. À quoi s'oppose la dépense silencieuse ? Dans le banquet, à ce Dieu, ô Phèdre, je dédie ce discours. On ne peut donner du langage. Comment le faire passer d'une main dans l'autre ? Mais on peut le dédier, puisque l'autre est un petit Dieu. L'objet donné se résorbe dans le dire somptueux, solennel de la consécration, dans le geste poétique de la dédicace. Le don s'exalte dans la seule voix qui le dit, si cette voix est mesurée, métrique, ou encore chantée, lyrique. C'est le principe même de l'hymne. Ne pouvant rien donner, je dédie la dédicace même. En quoi s'absorbe tout ce que j'ai à dire. À la très chère, à la très belle qui remplit mon cœur de clarté, à l'ange, à l'idole immortelle. De Baudelaire. Le chant est le supplément précieux d'un message vide, tout entier contenu dans son adresse. Car ce que je donne en chantant, c'est à la fois mon corps, par ma voix, et le mutisme dont tu le frappes. L'amour est muet, dit Novalis. Seule la poésie le fait parler. Le chant ne veut rien dire. C'est en cela que tu entendras enfin que je te le donne, aussi inutile que le brin de laine, le caillou tendu à sa mère par l'enfant. Impuissant à s'énoncer, à énoncer, l'amour veut cependant se crier, s'écrire partout. All'acqua, all'ombra, ai monti, ai fiori, all'erbe, al fonti, all'eco, all'aria, al banti, dans les Noces de Figaro. Pour peu que le sujet amoureux crée ou bricole un ouvrage quelconque, il est saisi d'une pulsion de dédicace. Ce qu'il fait, il veut aussitôt et même par avance le donner à qui il aime, pour qui il a travaillé ou travaillera. La suscription du nom viendra dire le don. Cependant, hormis le cas de l'hymne qui confond l'envoi et le texte lui-même, ce qui suit la dédicace, à savoir l'ouvrage lui-même, a peu de rapport avec cette dédicace. L'objet que je donne n'est plus tautologique. Je te donne ce que je te donne. Il est interprétable. Il a un sens, des sens qui débordent de beaucoup son adresse. J'ai beau écrire ton nom sur mon ouvrage, c'est pour eux qu'il a été écrit, les autres, les lecteurs. C'est donc par une fatalité de l'écriture elle-même qu'on ne peut dire d'un texte qu'il est amoureux, mais seulement, à la rigueur, qu'il ait été fait amoureusement, comme un gâteau ou une pantoufle brodée. Et même, moins encore qu'une pantoufle. Car la pantoufle a été faite pour ton pied, ta pointure et ton plaisir. Le gâteau a été fait ou choisi pour ton goût. Il y a une certaine adéquation entre ces objets et ta personne. Mais l'écriture, elle, ne dispose pas de cette complaisance. L'écriture est sèche, obtuse. C'est une sorte de rouleau compresseur. Elle va indifférente, indélicate. Elle tuerait père, mère, amant, plutôt que de dévier de sa fatalité, au reste énigmatique. Quand j'écris, je dois me rendre à cette évidence, qui, selon mon imaginaire, me déchire. Il n'y a aucune bienveillance dans l'écriture. Plutôt une terreur. Elle suffoque l'autre, qui, loin d'y percevoir le don, y lit une affirmation de maîtrise, de puissance, de jouissance, de solitude. D'où le paradoxe cruel de la dédicace. Je veux à tout prix te donner ce qui t'étouffe. Nous vérifions souvent qu'un sujet qui écrit n'a pas du tout l'écriture de son image privée. Qui m'aime, pour moi-même, ne m'aime pas pour mon écriture. Et j'en souffre. C'est sans doute qu'aimer à la fois deux signifiants dans le même corps, c'est trop. Cela ne court pas les rues. Et si par exception cela se produit, c'est la coïncidence, le souverain bien. Je ne puis donc te donner ce que j'ai cru écrire pour toi. Voilà à quoi il faut me rendre. La dédicace amoureuse est impossible. Je ne me contenterai pas d'une suscription mondaine, feignant de te dédicacer un ouvrage qui nous échappe à tous deux. L'opération dans laquelle l'autre est pris n'est pas une suscription. C'est plus profondément une inscription. L'autre est inscrit. Il s'est inscrit dans le texte. Il y a fait sa trace multiple. Si, de ce livre, tu n'étais que le dédicataire, tu ne sortirais pas de ta dure condition d'objet aimé, de Dieu. Mais ta présence dans le texte, par la même que tu y es méconnaissable, n'est pas celle d'une figure analogique, d'un fétiche. C'est celle d'une force, qui n'est pas, dès lors, de tout repos. Peu importe donc que tu te sentes continuellement réduit au silence, que ton propre discours te paraisse étouffé sous le discours monstrueux du sujet amoureux. Dans Théoréma, de Pasolini, l'autre ne parle pas, mais il inscrit quelque chose en chacun de ceux qui le désirent. Opère ce que les mathématiciens appellent une catastrophe, le dérangement d'un système par un autre. Il est vrai que ce muet est un ange.
Leave your hypocrisy at the office. Put down the barber like a man. Don't talk to me about fidelity. You know I know it's no more than a sham. Make that show you want by the lipstick before you pull up your pants. Tie it up by the belt, they'll whip you hard if you give them half a chance. It's an emergency, come quickly. This is an emergency, come now. Emergency, emergency, come quickly. My big white house is falling down. It's falling down. Gunslinging combos are the reasons. Some even keep a man on the hole. Is that a pistol in your pocket? Is it only economy grow? It's an emergency, come quickly. This is an emergency, come now. Emergency, emergency, come quickly. My big house is falling down. It's falling down. Concerning covers like attention. But some things should never come to light. All your embarrassing explosion should remain in a rim of light. Hey. It's an emergency, come quickly. This is an emergency, come now. Emergency, emergency, come quickly. My big white house is falling down.
Dépendance. Figure dans laquelle l'opinion voit la condition même du sujet amoureux asservie à l'objet aimé. La mécanique du vacelage amoureux exige une futilité sans fond. Car pour que la dépendance se manifeste dans sa pureté, il faut qu'elle éclate dans les circonstances les plus dérisoires et devienne inavouable à force de pusillanimité. Attendre un téléphone est en quelque sorte une dépendance trop grosse. Il faut que je l'affine sans limite. Je m'impatienterai donc du bavardage des commères qui, chez le pharmacien, retardent mon retour près de l'appareil auquel je suis asservi. Et comme ce téléphone, que je ne veux pas manquer, m'apportera quelque nouvelle occasion de m'assujettir, on dirait que j'agis énergiquement pour préserver l'espace même de la dépendance et permettre à cette dépendance de s'exercer. Je suis affolée de dépendance. Mais de plus, autre redent, je suis humiliée par cet affolement. Si j'assume ma dépendance, c'est qu'elle est pour moi un moyen de signifier ma demande. Dans le champ amoureux, la futilité n'est pas une faiblesse ou un ridicule. Elle est un signe fort. Plus c'est futile, plus cela signifie et plus cela s'affirme comme force. L'autre est assigné à un habitat supérieur, un Olympe, où tout se décide et d'où tout descend sur moi. Ces descentes de décision sont parfois échelonnées, l'autre se trouvant lui-même assujetti à une instance qu'il dépasse, en sorte que je suis sujet deux fois, de qui j'aime et de qui il dépend. C'est alors que je commence à rechigner. Car la décision supérieure, dont je suis l'objet dernier et comme aplati, m'apparaît cette fois-ci comme tout à fait injuste. Je ne suis plus dans la fatalité qu'en bon sujet tragique je m'étais choisi. J'en suis rendu à ce stade historique où le pouvoir aristocratique commence à subir les premiers coups de la revendication démocratique. Il n'y a pas de raison pour que ce soit moi qui... Le choix des vacances, avec leur calendrier compliqué dans tel ou tel réseau dont je me trouve faire partie, favorise à merveille ces premières revendications. Dépenses. Figure par laquelle le sujet amoureux vise et hésite tout à la fois à placer l'amour dans une économie de la pure dépense. De la perte pour rien. Dans les souffrances du jeune Werther, Albert, personnage plat, moral, conforme, décrète à la suite de combien d'autres que le suicide est une lâcheté. Pour Werther, au contraire, le suicide n'est pas une faiblesse, puisqu'il procède d'une tension. Oh mon cher, si tendre tout son être et faire preuve de force, pourquoi une trop grande tension serait-elle faiblesse ? L'amour-passion est donc une force. Cette violence, cette tenace, cette indomptable passion. Quelque chose qui peut rappeler la vieille notion grecque d'ichus, énergie, tension, force de caractère. Et plus près de nous, celle de dépense. Cela doit être rappelé si l'on veut entrevoir la force transgressive de l'amour-passion. L'assomption de la sentimentalité comme force étrange. Dans Werther encore, à un certain moment, deux économies sont opposées. D'un côté, il y a le jeune amoureux qui prodigue sans compter son temps, ses facultés, sa fortune. De l'autre, il y a le philistin, le fonctionnaire, qui lui fait la leçon. Distribuez votre temps, calculez bien votre fortune. D'un côté, il y a l'amoureux Werther qui dépense chaque jour son amour, sans esprit de réserve et de compensation. Et de l'autre, il y a le mari Albert, qui ménage son bien, son bonheur. D'un côté, une économie bourgeoise de la réplétion, de l'autre, une économie perverse de la dispersion, du gaspillage, de la fureur, furor verterinus. Un lord, puis un évêque anglais, reprochèrent à Goethe l'épidémie de suicide provoquée par Werther. À quoi Goethe répondit en termes proprement économiques. Votre système commercial a bien fait des milliers de victimes. Pourquoi n'en pas tolérer quelques-unes à Werther ? Le discours amoureux n'est pas dépourvu de calcul. Je raisonne, je compte parfois. Soit pour obtenir telle satisfaction, pour éviter telle blessure, soit pour représenter intérieurement à l'autre dans un mouvement d'humeur, le trésor d'ingéniosité que je dilapide pour rien en sa faveur. Céder, cacher, ne pas blesser, amuser, convaincre. Mais ces calculs ne sont que des impatiences. Nulle pensée d'un gain final. La dépense est ouverte à l'infini. La force dérive sans but. L'objet aimé n'est pas un but, c'est un objet-chose, non un objet terne. Lorsque la dépense amoureuse est continuellement affirmée, sans frein, sans reprise, il se produit cette chose brillante et rare qui s'appelle l'exubérance, et qui est égale à la beauté. L'exubérance est la beauté. La citerne contient, la source déborde. L'exubérance amoureuse, c'est l'exubérance de l'enfant dont rien ne vient encore contenir le déploiement narcissique, la jouissance multiple. Cette exubérance peut être coupée de tristesse, de dépression, de mouvements suicidaires. Car le discours amoureux n'est pas une moyenne d'état, mais un tel déséquilibre fait partie de cette économie noire qui me marque de son aberration, et pour ainsi dire de son luxe intolérable.
Thank you.
C'était Philos Amouron. Lecture de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Cette semaine, nous avons vu les chapitres Dédicace, Dépendance et Dépense. Et la semaine prochaine, nous continuons avec Des réalités, Drame et Écorché. La musique est de Philo. Le premier morceau était Hillary's Emergency Song et le second Fame and Money. La musique de générique est de John Renbourn. La lecture est de Jean Sian. À la semaine prochaine.